Bonjour, soyez les bienvenus. Merci à ce concert qui nous a été offert. C'est inclus dans le culte. Comme vous ne pouvez plus aller au spectacle, vous avez le concert gratuit ce matin. Alors bonjour à chacun, ceux qui sont présents à l'église de Mérin et ceux qui sont devant ou derrière leur écran. Personnellement, quand je vais au cinéma, je suis plutôt devant l'écran, mais pas derrière. Mais certains disent être derrière l'écran. Moi, derrière mes écrans, il y a des câbles, mais on ne voit rien. Alors que vous soyez vraiment accueillis par le Seigneur, que vous sentez bien, que vous puissiez vous réjouir pendant ce culte. Merci à l'équipe aussi musicale, donc Sylvain et Elena, merci à l'équipe technique qui est derrière, merci à toute l'équipe sanitaire qui a aussi préparé la possibilité d'avoir ce culte. Alors, je vous invite à prier. Seigneur, merci parce que tu es présent au milieu de nous. Merci pour cette occasion de te louer, de t'adorer, de te célébrer, d'écouter aussi ta parole. Seigneur, que nous soyons attentifs ce matin, que nous puissions nous laisser édifier, nous laisser enseigner par ce que nous pourrons partager ce matin. Dans le nom de Jésus. Amen. Alors ce matin, c'est peut-être un peu vieux jeu, mais je vais vous raconter une histoire de ouin-ouin. Qu'est-ce que ça a rien à faire dans un culte, mais c'est quand même une histoire de ouin-ouin. Alors c'est un peu vieux, mais c'est ouin-ouin qui se dit « je vais aller visiter Paris ». Alors bon, il se pose la question de qu'est-ce qu'il pourrait aller voir. Il y a le Trocadéro, évidemment, il y a la Villette, il y a les musées, le musée Grévin et plein de musées. Mais il se dit d'abord, non, j'aimerais visiter la Tour Eiffel. Alors, il prend son billet au pied de la Tour Eiffel et puis il décide d'aller jusqu'en haut. Alors, il prend un billet pour tout en haut et il monte. Donc, premier étage, ensuite deuxième étage, puis au deuxième étage, il va vers l'ascenseur dans la tour qui l'amène tout en haut. Et il regarde la vue, il voit tout Paris, il dit, mais c'est magnifique. Puis, il regarde à ses pieds, là, il regarde en bas et puis il voit une pièce de 1 franc. Alors bon, c'était les francs français de l'époque, hein. Mais il voit une pièce de 1 franc, il se dit, ah, dis donc, quand je redescendrai, j'irai la ramasser. Alors après, il a fini de sa vue, il redescend, il arrive au deuxième étage, et là, il regarde, et puis il voit que la pièce est toujours là. Il dit, oh, personne ne l'a prise, je vais me dépêcher de la prendre. Mais il voit que ce n'est plus 1 franc, c'est 2 francs. Alors, il se dépêche, il va au premier étage, il regarde, et c'est une pièce de 5 francs. Là, il descend à toute vitesse, et il arrive en bas, et qu'est-ce qu'il trouve? C'est une poubelle. Pas de chance. Alors, pourquoi cette histoire, hein? Est-ce que j'ai une petite idée derrière la tête? Alors, c'est de parler de ouin-onction. Alors, l'onction, qu'est-ce que c'est? Alors, je vais vous lire 2-3 choses sur l'onction. Donc l'onction est à l'origine une pratique de berger, peut-être que Michel pourrait nous en parler. C'était pour enlever les poux et d'autres insectes qui s'installaient souvent dans la laine des moutons et souvent près de la tête. Donc les anciens bergers versaient de l'huile sur la tête des brebis et qui rendaient la laine tellement glissante que les petits insectes avaient de la peine à arriver dans les oreilles. Alors aujourd'hui, on a quand même plus d'informations dans le sens biblique et les deux termes grecs traduits par « oindre » dans le Nouveau Testament sont « chrio », qui veut dire « enduire » ou « frotter d'huile » et par implication « consacré » pour une fonction publique ou religieuse. C'est pour ça qu'on oignait les rois à l'époque. Et un autre terme qui est utilisé, qui est « alepho », qui signifie « oindre ». À l'époque de la Bible, on oignait quelqu'un d'huile pour exprimer qu'il était béni et appelé par Dieu. La personne était ointe pour une mission particulière. Alors la Bible dit que Dieu a oint Jésus du Saint-Esprit pour annoncer la bonne nouvelle et libérer les captifs du péché. Après son départ, Christ nous a fait don du Saint-Esprit. Maintenant, tous les chrétiens sont oints. Donc on est tous oints, c'est-à-dire choisis par Dieu pour accomplir son dessein. Alors celui qui nous a affermis avec Christ et qui nous a consacrés par son onction, c'est Dieu. il nous a aussi marqués de son empreinte et a mis l'Esprit comme un gage dans notre cœur. Donc en fait, c'est une très bonne nouvelle. Savoir que nous avons été choisis. Moi, j'ai été choisi, vous avez été choisi, toi, tu as été choisi. Effectivement, c'était une révolution parce qu'on lit dans les Actes que même les non-juifs, et ça c'était vraiment nouveau, les non-juifs reçoivent le Saint-Esprit. Et c'était une révolution à l'époque. Et je lirai encore un texte qui est dans 1 Jean 2, 27. « Pour vous, l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous, et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne, mais comme son onction vous enseigne toutes choses, et qu'elle est véritable, et qu'elle n'est point un mensonge, demeurez en lui, selon ses enseignements qu'elle vous a donnés. » Donc cette onction est le Saint-Esprit qui habite en nous et qui nous fait vivre. Alors voilà de ce que je voulais dire dans cette histoire de Ouin-Ouin. Alors la dernière fois, on a parlé de Naomi, ou Noémie, de Ruth. On parlera un petit peu de la généalogie de Jésus. Alors, moi, je n'ai pas une généalogie chrétienne, pas vraiment. Je suis ici d'une famille, d'une grande famille, mais pas du tout évangélique au départ. J'étais dans une famille plutôt bon protestant, comme on dirait. Mais par contre, les dames étaient bien représentées dans des métiers ou dans des activités. Je ne suis pas dans une famille où la femme était femme au foyer avec peu d'importance. J'ai une tante qui était responsable du 11, qui était le renseignement, le 111 de l'époque, où on pouvait demander tout et n'importe quoi, pas seulement des numéros de téléphone. Ma grand-mère avait un garage de voitures. Et puis ma mère était à la direction d'école de commerce, comme certains le savent. Alors dans le temps ancien, c'était rare effectivement d'avoir des femmes qui aient un rôle, mais on a vu dans la Bible que plusieurs femmes ont été appelées pour un ministère particulier, pour un rôle particulier, soit dans l'Église, soit dans la société. Alors si la Bible a mis en valeur les femmes, le Saint-Esprit les a oints, bénies, intégrées dans la lignée de Jésus. On va en reparler tout à l'heure.
Ça marche ? Oui, ok. On vous propose de poursuivre ce culte avec deux chants. Le premier qui exprime notre foi de ce Dieu qui nous a rejoints. Tu es là au cœur de nos vies, dans le secret de nos tendresses, dans le matin de nos promesses, dans nos cœurs tout remplis d'orage, dans tous les ciels de nos voyages, au plein milieu de nos tempêtes, dans la musique de nos fêtes, tu es là. Thank you. proposant un deuxième chant que vous pouvez chanter dans votre cœur. Aube nouvelle, c'est un chant de l'Avent. Aube nouvelle dans notre nuit, pour sauver son peuple, Dieu va venir. Il faut préparer la route au Seigneur. Préparer la route au Seigneur. Des généalogies. Daniel vient de faire allusion à la sienne. Je ne sais pas si vous vous intéressez à votre généalogie. En général, on aime bien essayer de retrouver d'où on vient. Mais parfois, il y a des trous, il y a des ruptures, il y a des adoptions. Ce n'est pas si simple que ça. Il y a pas mal de généalogies, en fait, dans la Bible. Et justement, je vous propose, en ce temps de l'Avent, nous intéresser à celle de Jésus. Et puis, une fois n'est pas coutume, je vous épargne la lecture de cette généalogie. Matthieu, le premier des quatre évangiles qui sont dans notre Bible, il commence par une assez longue généalogie. Et c'est vrai que si vous donnez un Nouveau Testament à une personne non avertie et puis qui commence par ça, elle va peut-être vite se décourager. Ces quatre derniers dimanches, on a suivi le magnifique récit de Ruth, cette femme étrangère qui va entrer dans la lignée du Christ, et qui est justement dans cette généalogie. Et ça vaut la peine de voir de plus près ce qu'elle vient faire, ainsi que quelques autres femmes dans cette lignée d'hommes. En fait, nous, quand on s'intéresse aux généalogies, c'est un retour vers le passé. On veut savoir d'où on vient. Avec ce que nous raconte l'évangéliste Matthieu, il y a autre chose. Il y a autre chose que le passé. Je crois que Matthieu veut nous dire quelque chose sur qu'est-ce que la venue de Jésus change et a changé dans le monde, dans nos relations, dans notre compréhension de Dieu. Je suis d'ailleurs tombé sur une phrase dans la revue du Monde, Histoire et Civilisation, qui avait un dossier sur l'histoire du christianisme, dans son développement dans l'Empire romain, dans les premiers siècles. Il y avait cette phrase intéressante: le christianisme n'a jamais rompu avec la culture gréco-latine, au contraire, il l'a assimilée en profondeur pour en renverser l'échelle des valeurs. J'ai trouvé cette phrase très intéressante, et effectivement, je pense qu'à travers la généalogie que Matthieu nous rapporte, il nous montre un peu comment l'échelle des valeurs est renversée par la venue de Jésus. Et c'est un peu les grains de sable dans la régularité de cette généalogie qui le mettent en évidence. Alors, Matthieu, c'est le premier des quatre évangélistes, et on a quatre évangiles. Avant d'entrer plus en détail dans cette généalogie, c'est intéressant de remarquer qu'on a quatre regards différents sur cette venue de Jésus et sur sa signification. Quatre récits qui se rejoignent sur ce qui est au cœur de la mission de Jésus, sur sa mort et sa résurrection, mais quatre tableaux très différents. Le plus ancien des évangiles, qui est celui de Marc, ne raconte pas la naissance de Jésus, ni son enfance. Le plus tardif, qui est l'évangile selon Jean, il fait remonter l'origine de Jésus à la création du monde, avec le thème de la parole, mais quelque part c'est quelque chose qui nous rejoint dans notre humanité, c'est un peu par la parole qu'on est fait homme, et par un Dieu qui nous parle. Matthieu et Luc racontent tous les deux la naissance de Jésus et son enfance, mais de façon très différente. En fait, on les mélange allègrement dans nos fêtes de Noël, quand on raconte les histoires aux enfants, mais les différences sont tout à fait intéressantes, et c'est aussi le signe de la manière dont Dieu nous parle de manière différente en fonction de nos circonstances. Mais tous nous disent comment Dieu est venu habiter parmi les humains. Alors je reviens à cette généalogie qui a inspiré pas mal d'artistes, et vous pourriez peut-être passer les trois diapositives que j'ai préparées pour illustrer cette influence. Alors tout d'abord, Matthieu relie Jésus à l'histoire du peuple juif avec deux personnages clés. Il a pris Abraham qui a fait un acte de foi pour quitter un pays, et pas seulement un pays, il quitte une civilisation, il quitte une manière de voir le monde pour répondre à l'appel de Dieu, sans trop savoir où il va aller. Et puis le roi David, comme deuxième jalon, qui est le roi qui était porteur pour les Juifs de toute l'espérance d'un règne basé sur la paix et la justice. En fait, Matthieu, il s'arrange assez avec les noms qui sont repris des textes sacrés pour présenter un triptyque de 3 fois 14 générations. Donc c'est un nombre symbolique, ça donne une certaine beauté à cette généalogie. Un nombre symbolique parce que la perspective, ce n'est pas tellement de faire l'histoire exacte, mais c'est une perspective théologique. Et d'ailleurs, l'évangéliste Luc, il choisit d'autres noms, c'est une autre généalogie qui n'est pas tout à fait compatible, parce que c'est la perspective du sens des choses qui est importante. Mais justement, dans cette belle liste régulière, il y a quelques aspérités, quelques étrangetés qui en font tout le charme et qui ont une grande portée. Pour faire une image, c'est un peu comme si vous aviez un paysage majestueux avec des montagnes, des rochers, de la neige. Et puis quand vous venez regarder de plus près, vous voyez qu'il y a des personnages, il y a un jeune homme et une jeune fille qui sont en train, je ne sais pas, de s'échanger des fleurs, de discuter, de, voilà, et qui en contraste avec cette montagne rocheuse. Alors tout d'abord, comme on l'a déjà annoncé, il y a dans cette généalogie d'hommes, il y a quatre femmes, et ce n'est pas n'importe lesquelles. D'abord, il y a une certaine Tamar. C'était une veuve, hein, une veuve sans descendance. Et ça, c'est vraiment la fin du monde, hein, pour un juif, une femme qui est sans descendance. Et que cette femme a usé d'un stratagème très peu orthodoxe pour avoir un enfant. Elle se fait passer pour une prostituée. Puis elle risque gros avec ça, hein. Elle aurait pu y passer. Mais au final de l'histoire, on ne va pas la raconter en détail, au final, son beau-père lui déclare « Tu as été plus juste que moi. » Après, il y a une deuxième femme qui s'appelle Rahab. Rahab, c'était une étrangère et c'était aussi une prostituée. Mais c'est une femme qui a aidé les Israélites à entrer dans le pays promis et qui est ensuite louée pour sa foi. Puis troisièmement, il y a Ruth. Alors, vous en avez entendu parler pendant quatre dimanches de cette magnifique saga, de cette magnifique histoire. Mais encore une fois, c'est une étrangère et d'un peuple qui était censé être éliminé. Un peuple maudit, et c'est elle qui est là dans la généalogie de Jésus. Et quatrièmement, une femme qui n'est pas donnée par son nom, la femme d'Uri. Alors ça, c'est une femme que ce magnifique roi David s'est approprié au moyen d'un meurtre, parce qu'il faut appeler les choses comme ça, d'un meurtre camouflé en accident de guerre. Pas très très joli tout ça. Mais en plus de ces quatre femmes dans un univers d'hommes, il y a encore une autre irrégularité parce qu'il y a une petite faute de calcul. En fait, quand on regarde les noms, il y a 14, puis le troisième, il n'y en a que 13. Alors, on ne sait pas très bien pourquoi, mais peut-être que c'est aussi une manière de montrer un grain de sable dans cette régularité. Puis la dernière irrégularité, c'est que la généalogie aboutit à Joseph, qui n'est que le père adoptif. Et puis il y a donc cette cinquième femme qui est Marie, la mère de Jésus. Et peut-être que ces quatre femmes, c'est aussi une petite allusion, une petite résonance avec ce qu'a vécu Marie, qui s'est trouvée enceinte, que Joseph avait le projet de répudier, voilà. Donc encore un grain de sable qui vient souligner à sa manière que Jésus a une autre origine que cette lignée humaine. Et ça nous dit quelque chose aussi sur notre valeur à nous devant Dieu, qui ne dépend pas de notre généalogie humaine, qui ne dépend pas des circonstances, mais qui vient par l'appel de Dieu, qui donne tout le sens à notre vie. Quelles que soient les vicissitudes de notre existence et de notre généalogie. Alors, que nous disent ces quatre femmes? Ben, c'est vrai que pour moi, elles évoquent la valeur et la place de la femme qui se voit à travers toute la vie de Jésus. Parce que dans tous les récits de rencontres entre Jésus et des femmes, sans exception, on voit que Jésus offre aux femmes une considération, une valeur et une place qu'elles n'avaient pas à cette époque. Et pour reprendre ce que Philippe a déjà souligné dimanche dernier, la volonté créationnelle de Dieu donne une valeur égale à l'homme et à la femme. Dieu créa l'homme et la femme en image de Dieu. Et c'est tout ce qui est dans la Bible de l'ordre de la hiérarchie, de la domination, est très présent aussi. Comme c'est très présent dans la majorité des sociétés humaines, mais ça résulte de cette relation perturbée, rompue entre Dieu et l'homme. Ça résulte de ce qu'on appelle péché. Ou parfois, c'est de l'ordre simplement de l'adaptation à des situations culturelles. Deuxième chose, deux de ces femmes sont des étrangères. Et il y en a une troisième qui est femme d'un étranger. Et là encore, l'évangéliste souligne à travers ça cette ouverture vers les autres peuples. Daniel y a aussi fait allusion tout à l'heure. Que le ministère de Jésus vous invite à voir. Pour les religieux juifs qui se pensaient être meilleurs que les autres, Jésus a donné souvent comme modèle des étrangers, la foi d'une femme étrangère, la foi d'un centurion romain, qui était donc un militaire de l'occupant, c'est lui qui est loué pour sa foi. Et la générosité d'un samaritain, on en a aussi fait parler. Un samaritain, c'était un des peuples qui était censé être un petit peu juif, mais avec une forme de judaïsme qui était dévoyée, donc on ne devait pas avoir de relation avec eux. C'est lui que Jésus prend comme modèle de générosité. Oui, Jésus nous montre un accueil de Dieu sans frontières. Et d'ailleurs, l'évangile qui commence avec cette note-là, à travers la généalogie, s'achève par un appel à partager la bonne nouvelle avec tous les peuples dans le monde entier. Troisièmement, la femme du riz. Ça rappelle un épisode d'une terrible violence. Avec ce roi David qui était porteur de l'espérance de justice et qui commet ce meurtre sordide. On peut voir à travers ça que la Bible est vraiment réaliste. Elle nous montre comment la violence traverse toutes les sociétés humaines. Et il y a dans la Bible des histoires qu'on n'oserait pas mettre entre toutes les mains. Mais c'est justement pour montrer toute la force de cette restauration que Dieu vient apporter, mais pas avec des moyens humains, avec la fragilité de cet enfant qui va naître, et avec la croix à travers laquelle toute cette violence humaine est assumée et est reprise par Jésus lui-même, qui nous enseigne à tendre l'autre joue. Quatrièmement, je reprends ce que Philippe a dit la dernière fois, en mettant ces femmes en valeur, Matthieu souligne aussi comment Dieu travaille avec les petites gens. Quand on apprend l'histoire à l'école, enfin moi, les souvenirs un peu vagues que j'en ai, et lointains, on apprend des histoires de rois, de guerres, des monuments célèbres. Mais on ne sait pas trop où étaient les petites gens, comment les gens vivaient. On ne sait pas trop qui était peut-être exploité pour construire ces magnifiques monuments, mais sans laisser de traces. Ben, ces textes bibliques, et cette généalogie en particulier, ils viennent renverser cette perspective. Ils viennent ouvrir la porte aux gens que la société considère comme sans importance. Et Dieu utilise ces petites gens pour accomplir ses desseins. Alors cette vieille histoire, finalement, elle est terriblement actuelle et pertinente aujourd'hui. Je dirais d'abord qu'on est invité à accueillir nous-mêmes cette présence de Dieu qui s'est approchée de chacun de nous et qui nous donne notre vraie valeur qui ne dépend ni de notre généalogie, ni du fait qu'on est dans une famille chrétienne ou pas, hein, ni de notre nationalité, ni de nos études, ni de nos compétences, ni de notre situation, hein, que ce soit la situation professionnelle, la situation maritale. Notre valeur devant Dieu ne dépend pas de ça. Et finalement, on a là la source vers laquelle ce qui est brisé dans nos vies peut être réparé. La source où on peut être délivré de ce qui nous enchaîne. On passe parfois par des temps difficiles, par des temps où le monde semble s'écrouler, par exemple à la perte d'un être cher, dans une rupture du couple, un échec dans la vie, une faute lourde qu'on n'arrive pas à se pardonner, un conflit dont on n'arrive pas à sortir. Mais toujours, encore une fois, la grâce de Dieu peut nous remettre debout. Et puis nous sommes invités à nous-mêmes accueillir comme nous avons été accueillis, et en particulier avoir de la considération pour les plus humbles. Par exemple, en tant que prof, on peut faire attention à des élèves qui sont peut-être plus fragiles ou plus en difficulté, ou bien au travail, avec un collègue, tel collègue, qui est peut-être sujet à des, comment est-ce qu'on dit, du mobbing. Puis aussi avoir la valeur de chacun dans l'Église. Parce qu'en tant qu'une communauté chrétienne, chacun a son importance, pas seulement ceux qui sont souvent devant. Et puis à refléter autour de nous, et dans la société, ce regard de Dieu sur l'existence humaine. Je me souviens de quelqu'un qui disait, je ne sais pas d'où ça vient, Dieu écrit droit avec des lignes courbes. Mais que le Seigneur puisse nous guérir là où nous sommes courbés ou cassés et nous aider à transmettre cette vie renouvelée autour de nous. Je vous invite à un petit moment de silence et de prière. Merci Seigneur de nous avoir rejoints dans nos existences. Merci pour cette valeur que tu nous donnes, qui ne dépend que de ton amour pour nous. Aide-nous à en vivre chaque jour. Amen. Nous vous proposons un troisième chant qui est aussi un chant de l'avant, peuple qui marchait dans la longue nuit. Il est temps de lever les yeux vers le monde qui vient. Trois strophes de ce chant.
J'ai envie d'applaudir, je ne sais pas si c'est le cas pour vous, mais il faut quand même applaudir. Alors les agriculteurs diraient qu'on est greffé sur la plante originale. Les entreprises diraient qu'on associe une personne à l'entreprise. Et nous, effectivement, en tant que chrétiens, ce qu'on a entendu, on voit qu'on est associé, on est greffé à la vie de Jésus, à la vie de notre Seigneur. C'est quand même une très, très bonne nouvelle. Alors, je vous invite à prier, à remercier. Alors, ça va être difficile de prier avec les masques, donc il faudra parler fort. Quelques prières pour simplement remercier le Seigneur de nous avoir permis de faire partie de cette généalogie qui nous mène au royaume de Dieu. Et puis, on peut prier dans la deuxième partie aussi pour les malades qui sont malades du Covid ou qui sont absents pour cause de deuil ou différentes causes. Alors, je vous invite à prier. Seigneur, merci parce que nous faisons partie de ta maison. Merci parce que tu nous as inclus dans ta famille et ça ne vient pas de nous. On l'a vu dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament, mais c'est un choix délibéré de ta personne. Merci Seigneur de nous inviter et de nous avoir permis de faire partie de ces grandes familles. Amen. Amen.
Seigneur Jésus, merci pour ta venue sur terre. Merci pour le plus beau cadeau qui existe, c'est toi, ta présence dans ma vie. Merci parce que en ce temps de Noël, c'est ce vers quoi tu nous demandes de tendre. Et je te prie, Seigneur Jésus, pour que tu puisses ranimer les flammes l'espérance et de la foi dans ces temps particuliers et difficiles en chacun de nous et ceux qui sont absents aussi, et que nous puissions toujours revenir à la croix, Seigneur, et en ce temps de Noël se souvenir que c'est toi le vrai cadeau, c'est même pas le fait d'être en famille, mais c'est toi qui compte. Et Seigneur Jésus, que nous puissions être aussi scellés de lumière en ces temps particuliers, donne-nous ce courage aussi de témoigner envers ceux qui en ont tant besoin, et réchauffe les cœurs des gens, Seigneur, qui sont dans la tristesse, le deuil, la maladie, sois auprès de tous. Au nom de Jésus, amen.
Amen. Oui, au temps de Jésus, Jésus effectivement visitait les malades, visitait les gens en difficulté, visitait les étrangers. Seigneur, nous te louons de tout ce que tu as fait, que à notre tour, nous puissions être sensibles, prier pour ceux qui ont besoin de toi, ceux qui ne te connaissent pas encore. Que tu accompagnes chacun d'entre nous dans cette communauté, que chacun d'entre nous puisse être aussi témoin auprès de sa famille, ses voisins, ses collègues de travail, et que vraiment l'Évangile puisse progresser en ces temps de Noël. Seigneur, nous te louons pour ta présence. Merci parce que tu nous as gardés en toi, que tu nous as nourris, que tu nous as accompagnés tous les jours de notre vie. Et Seigneur, nous te remettons encore toute cette journée, tout ce dimanche, toute cette semaine qui vient, et nous te louons pour ta présence. Amen. Voilà, nous arrivons à un temps d'annonce. Je demanderai à Philippe de venir pour la partie sanitaire. Alors, au niveau des informations pour la communauté, donc il y aura une rencontre de prière ce mardi 15 décembre à 20h15, mais sur la plateforme Meet. Donc, ça ne sert à rien de venir ici, il n'y aura personne. Donc, il y a un temps de prière sur la plateforme Meet habituelle. Le culte de Noël aura lieu dimanche prochain à 10h. Ce sera un culte particulier pour Noël et que nous fêterons ensemble. Au niveau de la sortie tout à l'heure, on vous demande expressément de sortir rapidement et de ne pas discuter dans la salle. Donc il faudra sortir par la porte là. Vous pouvez bien sûr échanger dehors, mais ne restez pas dans la salle et gardez les distances, gardez le masque. C'est très important pour qu'on respecte les directives qui nous sont imposées. Voilà, au niveau des dons, effectivement, comme d'habitude, il n'y a pas de collecte. Donc, vous pouvez utiliser les applications qui existent. Pour ceux qui sont à l'aise en informatique et ceux qui ne le sont pas, il y a quand même une application Twint qui est très pratique. Il suffit, avec cette application, de photographier le QR code qui est à la sortie et puis vous versez la somme que vous désirez, que vous avez choisi de donner au Seigneur. Il y a bien sûr la possibilité de payer par Internet via votre banque et de verser sur le compte de l'Église. Il y a aussi une boîte, me rappelle-t-on. Donc il y a une petite boîte là derrière, si vraiment vous voulez verser dans la boîte, il n'y a pas de souci. Alors là, je laisse Philippe donner encore quelques explications concernant les directives et face au Covid.
Merci Daniel. Bonjour à chacun et chacune. Voilà, simplement vous dire que la décision de reprise des cultes a pu être confirmée tardivement, vendredi après-midi. Et c'est donc assez rapidement que les nouvelles dispositions ont été prises. Et j'aimerais remercier le groupe de veille sanitaire, le conseil, pour l'en avant qui a été donné. Nous pourrons continuer de nous réunir à certaines conditions. Bien sûr, le port du masque. Je vous encourage vraiment à utiliser l'inscription préalable pour que nous puissions contrôler le maximum de 50 personnes qui nous est autorisées. Ce maximum, il est calculé en fonction de la surface au sol de notre salle, un peu moins de 200 mètres carrés. Donc, en tous les cas, nous ne pouvons pas dépasser les 50 personnes, puisque c'est 4 mètres carrés par personne. Merci de l'inscription préalable. Je me rends bien compte que ce n'est pas simple non plus de ne pas chanter, mais ça nous est expressément demandé. Et pour le culte de Noël, avec une petite équipe musicale, nous cherchons d'autres façons d'exprimer notre reconnaissance à Dieu. Merci de votre compréhension. Je sais que ce n'est pas facile, ça ne l'est pour personne. Mais c'est à ces conditions que nous pourrons continuer à nous rencontrer pour le culte de Noël. On me dit dans l'oreillette qu'un programme particulier pour les enfants sera mis en œuvre à la chapelle. Donc voilà, quelque chose aussi se prépare pour les plus petits, pour les plus jeunes à la chapelle. Je vous remercie pour votre compréhension. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à venir nous voir, Roger, Mireille, Santoche, Eric, Célina ou moi. On répondra volontiers à vos questions. Une dernière précision, les rencontres en semaine ne sont pas autorisées. C'est la raison pour laquelle la rencontre de prière se fait encore sur la plateforme Meet. On vous tient au courant dès que ça s'assouplit en particulier et merci pour votre collaboration, ça nous aide.
Je vous propose comme bénédiction, vous pouvez vous lever, de vous lire ce verset que Sylvie m'a envoyé. Peut-être qu'elle vous a aussi envoyé un verset biblique. Heureux ceux qui placent en toi leur appui, ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. Psaume 84, 6. Seigneur, que nous puissions trouver des chemins pour vivre notre foi, pour vivre ces temps de Noël, pour témoigner. Amen. Bon dimanche, bonne semaine et déjà joyeux Noël. Oui, voilà.